France Musique.
Belle journée à vous, Karine Lebaille. On vous retrouve dimanche prochain.
France Musique.
Bonjour à toutes et à tous. Ma consolation est dans la musique, a écrit quelque part Marcel Proust. Et osera-t-on ajouter aux mots du grand homme qu'elle est plus encore peut-être dans l'intimité et dans l'alchimie singulière et si délicate de la musique de chambre et de ses interprètes. Aujourd'hui, dans l'air des lieux, nous serons à Paris, aux côtés de deux jeunes et très beaux ensembles de musiciens français, un trio, puis un quatuor, et les notes de Mendelssohn, de Mozart et de Félicien David pour nous accompagner sur chacune des deux rives de la Seine. Bienvenue.
What an elegant room!
Well, it's not Buckingham Palace, but it's Wilson's little castle.
L'air des lieux à l'auditorium du musée d'Orsay avec le quatuor Cambini.
L'air des lieux au théâtre des Bouches du Nord avec le trio d'Ali sur France Musique jusqu'à 17h.
Interrompre deux petites secondes avant que vous débutiez votre répétition. Christian-Pierre Lamarca, vous êtes avec Amandine Savary et Jack Liebeck, c'est-à-dire le trio d'Ali. On ouvre avec vous ce nouveau numéro de L'Air des Lieux sur France Musique. On est ensemble jusqu'à 17h. On va être rive droite et rive gauche, c'est-à-dire un peu au Théâtre des Bouffes du Nord et puis un peu aussi au Musée d'Orsay, à l'auditorium du Musée d'Orsay. Il sera évidemment question de musique de chambre. C'est la première fois que vous jouez ici, au Théâtre des Bouffes du Nord, tous les trois?
Absolument. C'est la grande découverte.
Vous entendez dire, c'est monstrueux.
C'est monstrueux, ça sonne. Ah ouais, ça sonne super bien. Non, je suis content, enfin en même temps, on n'a pas encore beaucoup travaillé ensemble, mais là c'est juste le premier feeling, le premier ressenti dans la salle, c'est très important.
Ça s'entend tout de suite ça?
Ça se ressent, ça ne s'entend pas, ça se ressent. Je sais pas, il y a un truc qui vous porte comme ça, qui vous guide. Et ça, je ne sais pas, on verra tout à l'heure, mais là, ça, je ne sais pas, il y a une âme ici, il y a quelque chose qui se passe.
Le lieu est magnifique déjà.
Ah, venez, rapprochez-vous.
Je dis, le lieu est magnifique, franchement, c'est très très beau déjà dans l'architecture. Ça sonne très très bien, rien qu'en claquant des doigts, ça s'entend. Et puis moi j'ai de la chance, j'ai un piano qui m'a l'air absolument magnifique. Donc voilà, on se réjouit.
Voilà, y a la première chose qui va se passer, c'est de se sentir déjà dans l'acoustique, se sentir à trois, d'essayer de former une unité dans la résonance, dans la respiration. Et après, il y a une deuxième étape qui est celle du partage, de la connexion avec le public. Et ça, c'est indescriptible puisque ça se passe au moment M. Mais là, on est dans la découverte. L'important, c'est de se sentir en fait. C'est bizarre, hein, parce que ça s'écrit pas vraiment en fait. Je trouve que c'est vraiment que du ressenti, du chose que vous pouvez pas vraiment palper.
Alors, on va vous laisser travailler, répéter. Je vais juste vous demander quand même de me présenter votre comparse, le troisième partenaire de ce trio d'Ali. C'est Jack Liebeck. J'aimerais que vous me le présentiez, parce que d'autant plus que sort ces jours-ci un nouveau disque du trio, mais avec un nouveau violoniste, en l'occurrence, qui est Jack.
Exactement. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on a, qu'on a Jack au sein du trio sur un disque. Mais bon, ça fait quand même maintenant assez longtemps qu'on joue ensemble. On est très heureux. C'est un merveilleux violoniste anglais qui nous a rejoint il y a un peu plus de 2 ans maintenant, 2 ans et demi, quelque chose comme ça. Donc c'est vrai qu'on a fait du chemin maintenant. Et on a pris notre temps, effectivement, de reconstruire quelque chose, d'être dans la continuité de du travail qu'on avait fait. Et je crois qu'on est... On est hyper contents, justement, d'être à Paris tous ensemble, parce qu'on a été dans pas mal d'endroits ailleurs, et c'est vrai que c'est bien de pouvoir présenter notre premier travail discographique tous ensemble, et aussi dans une salle à Paris. Donc, on se réjouit beaucoup. Thank you.
Antoine Manceau, on est tout en haut du Théâtre des Bouffes du Nord. Vous êtes, on va dire, le directeur artistique de ce qu'on appelle la belle saison Concert Hall. On va en parler plus avant, bien entendu. Mais là, on est donc en effet tout en haut du théâtre. C'est peut-être le plus beau point de vue et aussi peut-être que les auditeurs de France Musique entendent dans leur poste. Mais je vais dire, le point de vue acoustique, il est pas mal aussi d'ici.
Il est pas mal du tout. On a souvent la peur de monter trop haut dans les théâtres. Et dans certains, il faut savoir que ça fonctionne merveilleusement bien, et c'est le cas au Bouffes du Nord. Mais le son est d'une clarté magnifique, là au troisième balcon du théâtre des Bouffes du Nord, avec une vue plongeante sur les artistes, et Amandine Savary qui est en train d'essayer le piano sur lequel elle jouera dans quelques heures.
Est-ce que d'ailleurs c'est un lieu que vous fréquentiez avant d'y travailler? Je veux dire, veniez voir des pièces de théâtre, y écouter de la musique dans ce lieu auquel on avait consacré un numéro précédent de l'ère des lieux, fondé bien entendu par Peter Brook. Est-ce que c'était quelque chose qui était familier dans votre quotidien, je veux dire, de mélomane peut-être, ou d'amateur de théâtre, Antoine Manceau?
Ah oui, absolument, je le fréquentais assidûment, cette salle, depuis de nombreuses années maintenant. Ne serait-ce parce qu'elle est magnifique et que la programmation me plaît, me séduit depuis de nombreuses années, et aussi parce que par les hommes qui l'ont porté, des hommes auxquels je suis moi très attaché, je n'oserais parler à la radio de mentor, mais on n'est pas très loin, c'est Stéphane Lissner au début qui a créé cette saison musicale. Stéphane à qui j'étais très très lié puisque je me suis occupé de son académie au Festival d'Aix-en-Provence pendant 10 ans. Et un ami très proche, Olivier Mantei, qui est aujourd'hui co-directeur du Théâtre des Bouffes du Nord et qui est d'ailleurs le fondateur de ce projet de la belle saison Concert Hall. Voilà, et donc le travail de ces deux hommes, dans l'absolu, je le suis assidûment, et notamment au Bouffes du Nord, oui, clairement.
Alors on va faire un pas de côté, si je puis dire, parce qu'il faut qu'on laisse aussi répéter les musiciens, il ne faut pas qu'on les dérange pendant qu'on se parle, donc le trio d'Ali, juste en bas, on va faire un pas de côté, peut-être se mettre ici. Alors je veux bien que vous nous parliez, Antoine Manceau, des prémices de ce projet donc, qui est né ici au Théâtre des Bouffes du Nord et puis qui concerne maintenant beaucoup de salles en France, en région. Je me suis laissé dire que ça allait même un peu au-delà des frontières de l'Hexagone. Elle est partie d'où cette idée? Est-ce qu'elle mêlait à la fois un intérêt artistique et aussi quelque chose qui a à voir avec une économie aujourd'hui de la culture et une économie de la musique, puisque c'est de musique dont il s'agit?
Oui, vous avez raison de résumer ainsi. C'est à mon avis les deux questions de fond qui ont animé la réflexion. Réflexion qui vient d'Olivier Mantei il y a déjà une bonne dizaine d'années. Il y a déjà une bonne dizaine d'années qui, face au système de diffusion actuel de la musique classique, a senti cette nécessité, que ce soit pour les artistes ou pour le public également, bien sûr, de poser un cahier des charges de qualitatif sur la musique en donnant dans des lieux parfaitement adaptés au répertoire de la musique de chambre, de donner le temps aux artistes de parfaire les programmes, d'aller à la rencontre du public et de s'adresser à eux dans les meilleures conditions.
Ça veut dire déjà une salle, ça veut dire une acoustique, ça veut dire une jauge, ça veut dire un rapport particulier entre des musiciens et un public. Alors ici, on l'a entendu et on le voit, c'est un rapport idéal pour faire de la musique de chambre, le Théâtre des Bouffes du Nord, qu'on soit tout en bas, hein, assis vraiment au premier rang ou bien tout en haut, parce que le point de vue, on l'a dit, il est beau et l'acoustique, elle est magnifique. Mais c'est un rapport d'intimité qu'on recherche dans la musique de chambre avant toute chose.
Ah, c'est essentiel. C'est essentiel. C'est déjà de savoir à quel public on s'adresse, de créer une communion avec ce public, et la jauge est essentielle pour des raisons acoustiques, mais aussi d'expérience humaine du rapport à la musique. Donc la jauge est essentielle. Les lieux parfaitement adaptés à la musique de chambre, c'est entre 300 et 500, 600 places, ce sont les qualités de lieu. Donc la jauge est essentielle, l'acoustique, bien entendu, il faut que l'acoustique soit parfaite pour ce répertoire-ci, il faut que ça tourne pas trop, il faut que ça reste précis, de qualité, un peu généreux, une petite réverbe, toujours intéressante, ce qui est le cas d'ailleurs au Théâtre des Bouffes du Nord. Et puis aussi, j'allais dire, un environnement, une histoire, parce que c'est... Dans toute programmation, c'est cette recherche de l'alchimie entre le bon artiste au bon endroit, au bon moment et dans un bon programme. Donc l'âme du lieu est très très importante pour l'artiste lui-même, pour essayer d'aller au bout de l'œuvre qu'il va proposer, ce que ça peut lui inspirer, quel écho ça fait en lui par rapport à sa propre histoire. Et donc l'âme du lieu, son environnement, son histoire, son patrimoine, ses pierres sont des valeurs assez essentielles quand on parle de lieu de qualité pour la musique de chambre.
Alors ça veut dire que cette belle saison 1, après on va dire une saison un peu de préfiguration, vous dites exactement, c'est ça Antoine Manceau, voilà, on teste un peu les choses, on voit comment ça se passe, mais on s'installe dans une première saison ici au Théâtre des Bouffes du Nord et donc dans plusieurs salles en France et même un peu au-delà. Ça concerne quelle salle tout simplement, quel type de salle, quel théâtre, et au fond vous fonctionnez comment, je veux dire aussi au point de vue de la programmation, du choix des artistes et de quel type de répertoire on va jouer.
Ce qui est intéressant avec ce réseau, c'est que ce n'est pas un réseau institutionnel dans le sens où ça regroupe des lieux qui avant tout ont envie de travailler ensemble.
C'est auquel, par exemple ?
Par exemple, le théâtre de Coulommiers. Le théâtre de Coulommiers qui a toujours une activité culturelle et artistique, un peu moins musicale. Or, c'est un lieu de musique dédié et construit pour la musique à l'origine au 19e. Donc c'est un lieu, nous lui rendons ses heures premières dédiées à la musique. Et quand je dis que ce n'est pas un réseau institutionnel, qu'est-ce que ça signifie concrètement ? C'est-à-dire que ça regroupe des lieux qui ont de grandes variétés. Il y a une grande diversité de lieux. Ça peut être un petit festival qui a une chapelle merveilleuse pour la musique de chambre. Ça peut être la scène nationale de Cherbourg, qui est une institution assez conséquente, le Théâtre des Bouffes du Nord, Coulommiers, on vient d'en parler. Nous étions hier à Arras, la salle de concert en dessous de la salle de théâtre, qui est un lieu absolument magnifique, un écrin. Ça peut être avec Philippe Meyer, la saison musicale du Vieux Palais d'Espalion, qui est un lieu de résidence et qui offre une grange privée relativement inconnue du grand public, mais sans faire tout à fait exprès dans la rénovation de cette grange-là, dont ils souhaitaient une vocation artistique, ils sont tombés sur une acoustique absolument extraordinaire dans laquelle on peut enregistrer. Voilà. Donc on va découvrir ces lieux-là, on les regroupe autour d'une même table. Le dénominateur commun, c'est la qualité et l'envie de travailler ensemble et de défendre ce répertoire-là. Mais chacun avec ses moyens, avec son histoire et des moyens très, très, très variés selon les lieux. Thank you.
combien de salles actuellement en France, ce projet de la Belle Saison, et j'imagine que c'est appelé à s'élargir, à se développer, Antoine Monceau.
Il y a un phénomène un petit peu vertueux, puisque ça parle effectivement aux directeurs de salles, et ça parle surtout beaucoup aux artistes, donc ils en parlent entre eux, et ils nous sollicitent, vous devriez aller voir telle salle, etc. Donc ça grandit. Aujourd'hui, c'est une vingtaine de salles qui sont autour de la table des discussions sur ce projet de la Belle Saison.
Je vois qu'il y en avait pas mal dans le nord de la France, un peu dans le sud-sud-est, le sud-ouest, il l'a un peu moins.
Le sud-ouest, l'est un peu moins. La répartition géographique est effectivement un petit peu déséquilibrée, mais on y travaille. Et on a effectivement passé les frontières, parce qu'il y a la chapelle musicale Reine-Élisabeth qui vient de se doter d'une nouvelle salle de concert de 200 places qui est sublime. Donc ils nous rejoignent, également la salle à Padova, à Padoue en Italie, qui est une des salles, je ne vais pas dire la salle, mais bon, disons la salle historique de Richter quand même, où il y a toujours son piano dedans, c'est la Sala dei Giganti à Padova, qui nous rejoint. Et il y a également le King's Place à Londres, et effectivement ça s'étend hors des frontières, donc une vingtaine de lieux aujourd'hui. L'objet c'est à peu près de défendre une quinzaine de projets, pour parler chiffres, une quinzaine de projets par saison, ce qui correspond à peu près à 60-80 artistes, ça c'est variable, pour une grosse bonne centaine de concerts.
Ça veut dire bien choisir ses artistes et faire monter aussi une nouvelle génération, ça fait partie des missions d'une Belle Saison par exemple.
C'est absolument essentiel, on y travaille par des projets assez conséquents et qu'on espère pérennes, d'une part en collaborant avec la chapelle musicale Reine-Élisabeth, dont c'est la mission première. D'autre part, en ayant initié, c'est une première en France, un partenariat très très fort avec le Conservatoire National Supérieur de Lyon, puisque chaque année, nous prenons des ensembles en master, un ou deux ensembles en master, trio, quatuor, duo, pour les installer en résidence dans la Belle Saison, les faire travailler avec des grands maîtres, les initier à cet acte de transmettre, parce que on ne questionne jamais aussi bien son art que quand on cherche à le transmettre. Et malgré leur très jeune âge, c'est déjà le temps de questionner ça en allant transmettre à des scolaires et des élèves d'école de musique. Donc on travaille là-dessus avec eux, et c'est d'ailleurs diplômant, cette activité-là, au sein de la Belle Saison. Donc repérer des jeunes, les porter, leur faire monter des programmes, les associer à des grands maîtres, pour créer cette rencontre et leur donner une visibilité médiatique, ça c'est une mission très très importante de la Belle Saison. Oui.
Si vous deviez dire un mot sur le trio justement qu'on est venu écouter et voir avec vous ici au Théâtre des Bouffes du Nord, donc ce trio d'Ali, je disais que quelque part on les comparait vraiment à des grands noms, hein, Beaux-Arts Trio, enfin déjà des qui ont fait la légende de la musique de chambre. Vous les écoutez, vous les regardez comment, ces jeunes gens, Antoine Monceau?
Je vous parliez du changement de violoniste. Comment vous dire, on connaît le trio d'Ali depuis très très longtemps. La première audition de Christian-Pierre Lamarca, c'était avec moi pour le festival d'Aix-en-Provence pour qu'il intègre l'académie. Il l'avait fait. Donc on connaît Christian-Pierre depuis très très longtemps. Ce trio est merveilleux. Pourquoi avait-il besoin de la Belle Saison? Pourquoi la Belle Saison a souhaité s'associer à eux cette année? C'est justement pour porter haut et fort ce nouveau trio. Ils ont changé de violon, c'est très important, c'est une démarche parfois compliquée. Jacques Liebeck, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est absolument à découvrir. Il est très connu en Angleterre, un petit peu moins en France, violoniste d'une solidité, d'une virtuosité extraordinaire, et le trio est en pleine renaissance. Voilà. Et la mission, très clairement, de la Belle Saison, cette année, avec eux, c'est de participer à cette renaissance et de leur donner le plus de visibilité possible. Donc, pourquoi le trio d'Ali ce soir au Bouffes du Nord? Pour le donner à découvrir ou à redécouvrir au public. Et il ne faut pas hésiter à le faire, parce que c'est très clairement l'un des meilleurs trios français actuellement.
Merci beaucoup. Merci.
Thank you.
L'air des lieux au Théâtre des Bouffes du Nord sur France Musique jusqu'à 17h.
Est-ce que ça a beaucoup changé? Parce que je vous observais répéter tous les trois, dialoguer notamment. Est-ce que le fait quand même de changer de musicien dans la constitution d'un trio comme le vôtre, qui est bientôt composé et constitué depuis 10 ans, hein, 9 ans, Amandine Savary, est-ce que ça a beaucoup changé à la fois la façon non seulement de faire de la musique, mais ne serait-ce que de faire circuler le dialogue entre vous trois, Amandine?
Oui, alors, bon, déjà, on répète maintenant en anglais. Donc ça change déjà la donne, il faut qu'on se perfectionne en anglais, donc déjà on apprend beaucoup là-dessus, et puis on répète.
Vous connaissez bien la langue, vous avez fait vos études
en
partie là-bas.
Mais disons que c'est pas du tout la même démarche, c'est autre chose. Et puis on répète maintenant entre Londres et Paris. Et puis oui, c'est vrai que le processus a été assez long, mais ça apporte beaucoup de fraîcheur en fait au groupe, surtout dans les répertoires qu'on avait déjà joués et puis dans la musique qu'on a défendue il y a certaines années. Le fait d'avoir un nouveau membre qui apporte une nouvelle vision d'une œuvre, ça nous fait grandir en fait, parce qu'il remet en question des choix musicaux et voilà, on a totalement intégré Jacques à notre équipe et on est vraiment très très heureux maintenant de partager la même route.
Ça veut dire qu'on garde les fondamentaux et en même temps que ça remet en question pas mal de choses, ne serait-ce que sur le plan musical et de s'écouter ensemble.
Oui, moi je trouve que c'est, pour être honnête, j'ai pas l'impression que ça change grand-chose en fait sur le fond. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on a quand même gardé notre identité sonore parce qu'on était, on avait beaucoup travaillé là-dessus. On a une certaine osmose naturelle avec Amandine depuis longtemps. Et le but c'était d'adjoindre un nouveau membre dans cette osmose qu'on avait créée. Et je crois que ça, en fait, ça a été assez immédiat. Après, il a fallu travailler. Plus techniquement, évidemment, certaines choses, des respirations communes, des élans, en fait, tout ce qui est technique, c'est-à-dire pour les cordes spécifiquement, ou la recherche finalement d'un son de piano aux cordes, etc. En fait, tout ça, c'est un travail d'analyse, mais c'est un travail qu'on faisait déjà auparavant et qu'on a continué, tout simplement. Après, c'était la question de l'unité sonore. L'unité sonore, ça se fait avec le temps aussi. Je crois que, vous savez, il y a un feeling, mais en même temps, le temps fait beaucoup. C'est un peu comme le vin. À un moment donné, quand vous le laissez mûrir, c'est vos oreilles qui font le maximum du travail, finalement, je trouve, dans notre recherche. Et le fait de se connaître de mieux en mieux, de jouer de plus en plus. Le fait que maintenant on est toujours le trio d'Ali, mais peut-être un peu différent, je sais pas. C'est très difficile pour nous aussi de décrire ce phénomène parce que on est dedans. Donc on n'est pas forcément, on est acteur, donc on n'est pas spectateur et c'est tout à fait différent en fait, je trouve.
On discute de répertoire aussi, j'imagine, et par exemple quand il s'agit d'enregistrer, alors pour la première fois tous les trois, un nouveau disque, et en particulier les deux trios de Mendelssohn, est-ce que ça c'est un choix que vous avez discuté, ou là aussi de la même façon quelque chose qui s'est imposé d'une façon relativement évidente? Peut-être question à vous, Jack Liebeck.
I think one of the things that maybe has changed since I joined the group was that maybe the choice of Mendelssohn to record might have been a
oui, oui, Jack dit que en fait je fais la traduction que en fait on n'aurait peut-être pas choisi Mendelssohn s'il n'avait pas intégré le trio. C'est vrai que c'est vrai, je veux dire que c'est quelque chose qui s'est presque imposé à nous, dans le sens où on avait envie, Jack avait beaucoup envie de jouer ces pièces-là. C'est des pièces qu'on avait déjà défendues il y a quelques années, et on les avait laissées de côté pendant longtemps parce qu'on s'était consacré à d'autres répertoires. Et quand on les a reprises, ces pièces avec lui, on s'est aperçu que c'était, voilà, c'était le moment. Et puis on sentait jeune, vous savez, c'est une musique qui est tellement juvénile, finalement. C'est une musique de jeunesse, et nous, on se disait que c'était quelque chose qu'il fallait qu'on fasse maintenant, parce que peut-être qu'on n'aurait plus le jus après, plus tard, de le faire. Non, mais c'est vrai, c'est...
Comment ça? Amandine,
c'est exactement ça. En fait, c'était juste le bon moment pour nous d'enregistrer les trios de Mendelssohn, parce qu'on peut y apporter un petit peu de notre jeunesse, encore, enfin bon, on espère, et de la fraîcheur, du dynamisme, du punch, parce qu'il y a énormément de punch dans cette musique. C'est très passionné, très relevé, et bon, j'imagine que d'ici une trentaine d'années, je pense que les douanes suivront peut-être plus, donc je crois que c'était exactement le bon moment.
Vous avez le temps d'ici là, quand oui, même. C'est plus facile la vie d'un trio que la vie d'un quatuor?
Bah, je sais pas, en fait. On l'a pas vécu, c'est ça.
Mais vous en parlez, j'en suis sûr.
Oui, bien sûr, on en parle très souvent, et c'est vrai que je pense qu'il y a une promiscuité dans le quatuor à cordes qui est peut-être un peu moins évidente, à la longue en tout cas. Mais je crois qu'on vit plus ou moins les mêmes choses quand même. À partir du moment où on travaille avec les gens sur le long terme, on est forcément confronté à certaines choses, des choses de vie en fait, tout simplement. Et après, c'est la passion qui fait que ça marche ou ça marche pas. Nous, ça a cliqué depuis longtemps. Et, enfin, voilà, c'est un clic naturel. Non, mais c'est vrai, ça s'explique pas. On a envie de continuer. Si on n'avait pas envie, on aurait pu s'arrêter à plein de moments différents, mais je crois que c'est aussi la passion du répertoire, parce que en fait, on s'est toujours dit que malheureusement, dans le trio avec piano, on n'avait pas forcément ce culte. Enfin, c'est pas commun de travailler le trio avec piano finalement. Ça a souvent été dans le passé des réunions de solistes, et du coup, on s'était toujours posé cette question. On a toujours eu ce questionnement de se dire, voilà. Finalement, se retrouver sur ce répertoire-là, mais en faisant quelque chose d'autre, en l'amenant ailleurs, en essayant d'aller peut-être un peu plus loin dans le travail, en tout cas de prendre le temps, voilà, tout simplement. Je crois que c'était notre vocation, et c'était notre motivation première. Et c'est pour ça qu'on continue, parce qu'on pense que dans ce répertoire-là, il y a quelque chose à faire, toujours quelque chose à faire, à chercher, ne serait-ce que pour nous et pour la formation aussi.
Avoir vos impressions, Jack Liebeck, sur la salle dans laquelle vous répétez cet après-midi et dans laquelle vous jouerez, ce théâtre des Bouffes du Nord dont on n'a pas trop l'idée quand on est à l'extérieur. Vous le connaissiez, ce théâtre? Comment vous vous y sentez?
Of course, I've heard of Bouffes du Nord. Its reputation.
But it's a non, very Jack dit qu'il est très heureux, qu'il pense que ça va être une acoustique magnifique, et que c'est vrai que en regardant de l'extérieur, ça peut paraître un peu, c'est un peu étonnant, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un bloc, on voit pas vraiment que c'est un théâtre, et que finalement, quand on rentre, quand on pousse les portes, on est dans une sorte d'impression noire comme ça, un peu illuminée, et il y a une acoustique magique, et il est très 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 heureux et très impatient de jouer ce soir.
It's like a hidden treasure in a way, isn't it? It's like it's hidden away.
Il dit que c'était un trésor caché, c'est un peu un trésor caché.
C'est vrai. Merci beaucoup à tous les trois.
Avec plaisir.
Et bon anniversaire, Christian-Pierre Lamarca. Puisque nous sommes le 31 mai, c'est votre anniversaire.
Oui, on va aller boire du champagne.
Merci.
nouveau disque du trio Dali est consacré à Mendelssohn. C'était à l'instant le final de son deuxième trio en do mineur. Amandine Savary au piano, Christian-Pierre Lamarca au violoncelle et le britannique Jack Liebeck au violon. Et puisque l'on évoque les lieux de musique dans cette émission, eh bien c'est l'occasion de saluer aussi le beau travail du label Zigzag Territoire pour ce programme, capté dans l'acoustique idéale de L'Heure Bleue, une salle de concert qui est située en Suisse à La Chaux-de-Fonds, salle appréciée par tous les musiciens, Arao, Zering, Le Beaux-Arts Trio. Beaucoup d'artistes y ont enregistré de très beaux disques.
L'air des lieux à l'auditorium du musée d'Orsay.
Avec le quatuor Cambini.
Sur France Musique jusqu'à 17h.
France Musique. Luc Bougnol-Lafont, je vais vous demander tout simplement de me parler un peu du lieu dans lequel on se rencontre. Vous êtes le chef du service culturel et le directeur de l'auditorium du musée d'Orsay. On se rencontre à quelques pas de cet auditorium, mais dans un lieu que je vais vous laisser me décrire si vous voulez bien.
Eh bien, nous sommes, je dirais, en plein milieu de ce que nous appelons, nous, la nef, la grande nef du musée. Donc, c'est au milieu de ce qu'était l'ancienne gare, hein, qui a été construite en 1900. Et en 1900, c'est là que les premiers trains sont arrivés. Et ça, jusqu'en 1945. C'est un petit peu, le cœur battant du musée. C'est un grand agora, c'est là où tout le monde se retrouve. C'est un lieu magique et je crois que c'est un lieu qui continue à éblouir ceux qu'on appelle les primo-visiteurs, ceux qui viennent pour la première fois, notamment les touristes étrangers, mais qui continue aussi à fasciner ceux qui viennent plus régulièrement. C'est vraiment un lieu assez extraordinaire.
Alors, ceux qui viennent par exemple ces jours-ci au musée d'Orsay, qu'ils soient parisiens ou qu'ils soient touristes, ils peuvent voir notamment, dit-on, je n'ai pas encore vu, mais une magnifique exposition consacrée à Pierre Bonnard. Et le travail que fait quelqu'un comme vous, qui êtes donc le chef du service culturel et le directeur de l'auditorium du musée d'Orsay, c'est de mettre en regard et de mettre en perspective des expositions et des cycles musicaux. Comment programme-t-on tout simplement une saison ici au musée d'Orsay ?
Oui, le travail du service culturel et de l'auditorium, c'est à la fois de donner au public le plus large possible, à tous les publics, des clés de compréhension des collections permanentes et des expositions, à travers des conférences, des lectures, des tables rondes, etc. Mais aussi de prolonger, d'élargir sur le plan culturel les thématiques des expositions. Alors, vous avez évoqué l'exposition Bonnard, pour laquelle on a conçu un programme, notamment un programme musical. Ce qui est très important ici, c'est de jamais oublier qu'on est dans un musée. Donc ce qu'on y fait, que ce soit en matière de musique, de cinéma ou d'autres, prend tout son sens quand il y a un lien soit avec la collection du musée, soit avec les expositions temporaires. C'est la particularité de ce travail de programmateur, de programmation qu'on fait ici. Au fond, l'expérience qu'ont envie de vivre les gens qui viennent au musée et qui aiment la musique, c'est de vivre la musique dans le musée, au milieu des œuvres d'art. Et on a cette grande chance ici d'avoir d'abord cette nef où l'on fait des concerts, où on va développer les concerts sous différentes formes et également des salles d'exposition où là aussi on peut et on doit et on va offrir une programmation musicale diversifiée.
On va se quitter peut-être avec la musique de Félicien David. C'est un compositeur que vous connaissiez bien, que vous découvrez avec des musiciens comme les Cambini, par exemple.
Mais j'ai commencé à le découvrir en arrivant au musée d'Orsay parce que je m'intéressais avant beaucoup à la musique du XVIIe et XVIIIe siècle quand j'étais aux Arts Florissants. Et alors c'est formidable, j'ai progressé, je suis maintenant dans le 19e siècle et je découvre un grand compositeur, un personnage tout à fait passionnant et une musique très intéressante. Et les Cambini en sont des interprètes de première classe.
Merci beaucoup.
Merci.
Thank you.
il y a dans les quatre quatuors à cordes composés par Félicien David quelque chose qui rappelle dans leur construction, dans les harmonies et même dans l'expression certains quatuors de Schubert, Beethoven quelquefois et pourquoi pas avant eux les grands classiques Mozart et Haydn. Julien Chauvin est le premier violon du quatuor Cambini.
C'est vrai que le programme qu'on joue ce midi au Musée d'Orsay, c'est Mozart qu'on vient d'enregistrer, tout le cycle des quatuors dédiés à Haydn, et Félicien David qu'on a aussi enregistré il y a quelques années, mais qui représente pour nous un compositeur très important à défendre. C'est assez fascinant parce que finalement, sur le papier, on lit Félicien David, on se dit, bon, voilà, encore une rareté, exhumée, mais qui vaut pas forcément la peine. Et finalement, je veux pas dire que c'est unanime, mais les gens ont un réflexe de découverte de cette musique qui est assez fascinant. Et les gens, je pense, apprécient cette musique vraiment romantique. Là, pour le coup, là, on est parfait dans le cadre du Musée d'Orsay.
Alors, comment fait-on le lien, justement, entre l'un des quatuors de Mozart dédié à Haydn, ses dissonances, et un quatuor de Félicien David? Qu'est-ce qui relie l'un à l'autre? Qui pourrait m'expliquer ça en détail?
Je sais pas, mais d'abord, je pars pour Félicien David. Je pense que c'est une occasion vraiment super pour nous de pouvoir jouer ici, parce que il y a des peintures d'orientalisme vraiment très intéressantes ici. Et David a été un grand voyageur qui a voyagé notamment en Égypte. Enfin, c'était vraiment un des compositeurs qui a été influencé par la musique d'Orient, on va dire, bien avant Debussy. Et je trouve que c'est pour cela que vraiment c'est une chance et un honneur de pouvoir jouer ça au Musée d'Orsay.
Oui, moi, ce que je trouve beau chez Félicien David comme chez Mozart, c'est que tout d'abord, ce sont deux musiciens qui ont voyagé beaucoup et qui se sont enrichis de tous ces voyages et qui l'ont retranscrit dans leur musique d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire que on sent pas d'un coup, comme dans Le Désert, l'ode symphonique donc de Félicien David, forcément, tient des harmonies typiquement, avec des mélopées qu'on pourrait dire orientales, mais on sent ces inspirations qui ici et là vont s'inscrire, vont venir enrichir le discours. Je trouve que c'est surtout ça qui rapproche vraiment les deux compositeurs, je trouve.
On sent une chaleur en tout cas.
Julien Chauvin.
Non, on sent pas dans les mouvements lents, dans le premier mouvement de ce premier quatuor, on sent qu'il y a une chaleur. presque palpable. Et en même temps, voilà, c'était sa référence pour répondre à cette question. C'est vrai qu'il avait en tête quand même tous ses classiques viennois, Mozart, Haydn, Beethoven. Et c'est à la toute fin de sa vie qu'il écrit ses quatuors, vraiment dans les années 1870. Et vraiment, c'est pour lui une sorte de retour au génie créateur. Mais avec tout ce qu'il a vécu, donc forcément, il n'écrit pas indemne.
Thank you.
comment l'on s'empare quand on est un jeune ensemble comme vous, le Quatuor Cambini, mais alors des six chefs-d'œuvre pour le coup que sont les quatuors de Mozart dédiés à Haydn. Comment on met ces partitions sur le pupitre, comment on les travaille, comment on en parle aussi ensemble entre vous quatre musiciens, comment vous abordez à la fois ces œuvres pour le concert et puis aussi pour un disque que vous avez enregistré.
Moi, ce que je trouve très simple en fait dans l'approche qu'on peut avoir de cette musique, c'est que tout simplement Mozart était jeune quand il a composé ça. Il a mis beaucoup d'efforts pour les composer avec toute l'inspiration que Haydn lui avait donnée. Et c'est vrai qu'il a mis beaucoup de temps. Ça a été assez difficile, ça a été assez long. Et finalement, nous, on a, j'allais dire, à peu près le même âge et que lui quand il les avait composés, à peu de choses près. Et finalement, ça a mûri, nous aussi, très longtemps, ces interprétations de ces quatuors, parce que ça fait déjà quelques années qu'on les joue en concert. Et finalement, voilà, c'est l'achèvement de ce travail qu'on était finalement pressé de faire découvrir au public. Nous, c'est un cycle qui nous a beaucoup marqué parce que c'est vrai qu'on sent une espèce de pèlerinage au travers des six quatuors. Et voilà, en plus, on a eu la chance pour Karine et moi à Vienne d'aller visiter la maison où Mozart les a même composés et joués devant Haydn. C'était très fort au niveau émotionnel. Et c'est vrai que je pense que tout ça, ça fait partie de notre cheminement et qui nous a enrichi pour pouvoir produire cet enregistrement maintenant.
Une question plus générale, mais que je posais tout à l'heure à peut-être vos camarades du trio Dali, Christian-Pierre Lamarca, Amandine Savary et Jack Lebec, de savoir comment ça se passe la vie en trio et la vie en quatuor Cambini, vous quatre, ça se passe comment? Depuis combien d'années que vous êtes d'ailleurs constitué, Julien Chauvin?
Ça fait 8 ans, oui. Ça fait 8 ans, 2007, c'est ça, 8 ans. C'est une histoire de vie en fait, c'est-à-dire qu'on est obligé, si on veut avoir un ensemble pérenne, à avoir une écoute des autres qui est extrême dans un quatuor où vraiment les quatre personnalités sont vraiment très resserrées. Donc c'est un travail, pas un combat, mais un travail quotidien pour arriver à mieux parler, se comprendre, quatre personnalités différentes.
Karine.
Oui, c'est un chemin un peu initiatique et on retrouve quelque chose du couple. On dit souvent dans le métier que le quatuor est un couple à quatre et c'est vrai, on apprend de plus en plus, c'est pas ni plus facile ni plus difficile, on se découvre de plus en plus. Faut prendre soin les uns des autres, il faut prendre soin de la relation à quatre, c'est primordial pour que l'ensemble soit pérenne.
Frédéric ?
Moi, ce dont je me réjouis, c'est qu'on mange encore tous les quatre ensemble. On prend encore nos trains où nous avions à peu près ensemble la plupart du temps, quand d'autres obligations ne nous attendent pas. Et finalement, on arrive même à rigoler ensemble. Et ça, c'est formidable. Je trouve que pour l'instant, 8 ans de vie commune, je trouve que c'est bien. À 10, à 15, à 20, on verra. Mais pour l'instant, ça va.
Thank you.
dernier disque en date des Cambini réunit les 6 quatuors de Mozart dédiés à Haydn et celui dont nous écoutions à l'instant le final et un peu plus haut les mesures d'ouverture s'intitule Les Dissonances. C'est ce premier mouvement, justement, son adagio initial et sa grande ambiguïté tonale comme une sorte de brouillage harmonique qui avait tellement dérouté ses contemporains et qui ont valu son surnom à ce quatuor. Je vous l'affirme devant Dieu, confia un jour Haydn au père de Mozart. Votre fils est le plus grand compositeur que je connaisse, en personne ou en réputation. Il a du goût et en outre la plus grande science de la composition. Et c'est ainsi que l'on referme ce numéro de L'Air des Lieux. Un grand merci à Agnès Catou qui l'a réalisé, à Marie-Christine Ferdinand qui l'a préparé et à Valérie Lavalard qui était avec nous aujourd'hui pour le mixage. Info, réécoute et podcast, c'est sur francemusique.fr. À bientôt.